RFI, Radio France Internationale, il est 1h ici à Paris, minuit en temps universel. Bienvenue sur la Radio du Monde, voici un nouveau point sur l'actualité de notre planète.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de ce jeudi 7 novembre 2024, Donald Trump rempile. Le candidat républicain a remporté largement l'élection présidentielle. Déjà élu en 2016, le milliardaire de 78 ans revient aux affaires à l'issue d'un scrutin sans contestation. Il vient d'ailleurs de remporter le Michigan. Avec plus de 5 millions de voix d'avance sur sa rivale, le candidat républicain a élargi sa base électorale, lui permettant de rafler la majorité au Sénat et probablement aussi à la Chambre des représentants. Il profite aussi d'une campagne totalement ratée par le camp démocrate. Et parmi les dirigeants qui se félicitent de la victoire du milliardaire et de son retour aux affaires, il y a notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui se dit certain d'obtenir un soutien inconditionnel de la Maison-Blanche. Donald Trump, acte 2, le milliardaire républicain de 78 ans va donc retrouver le bureau ovale à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté. Donald Trump est donc devenu la nuit dernière 47e président élu de l'histoire des États-Unis, vainqueur avec des chiffres larges et confortables de son adversaire démocrate Kamala Harris. Trump remporte le vote des grands électeurs et le vote populaire aussi. Il vient d'être félicité par son prédécesseur, Joe Biden, qui l'invitera à la Maison-Blanche. Le républicain qui vient de remporter dans la soirée l'État-clé du Michigan. Il a donc largement dépassé les 270 grands électeurs, lui permettant d'obtenir avec certitude la majorité. Le Michigan, c'est un État du Midwest qui fait partie du fameux Blue Wall, le mur bleu, comme la Pennsylvanie ou le Wisconsin. Le mur est devenu rouge, donc le Michigan a été arraché par les républicains aux démocrates, les électeurs de Kamala Harris, qui espèrent que le parti en tirera les leçons. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Lubna Anaki.
Shocking, to say the least.
Calvin n'arrive toujours pas à y croire. Il n'était pas certain que Donald Trump, son candidat, allait gagner.
Il y avait beaucoup d'obstacles, c'est pour ça que j'étais surpris de le voir en tête. C'est une belle revanche politique.
Cet étudiant de 24 ans fait partie des millions d'électeurs qui ont voté pour le républicain dans le Michigan. Mais à Détroit, où Kamala Harris est en tête, on accuse le coup.
Les injures ont volé chez moi la nuit dernière. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. C'est terrible.
J'espère que ça ne sera pas aussi dramatique que durant son premier mandat. En tant que jeune femme, je suis vraiment inquiète.
Ces électeurs déçus, parfois en colère, estiment que les démocrates devraient se poser des questions sur leur choix et leur stratégie de campagne.
On les a trop entendus dire « on n'est pas Trump, vous devez voter pour nous ». Mais personne ne veut être coincé et obligé à voter comme ci ou comme ça.
Les démocrates sont champions quand il s'agit de perdre et puis ils vont accuser tout le monde de leur mauvaise campagne. Généralement, ça tombe sur une des minorités, comme si c'était elles, les responsables.
Joe Biden s'est-il retiré trop tard? Kamala Harris était-elle la bonne candidate? Son programme était-il assez clair? Ce sont certaines des questions auxquelles les démocrates vont désormais devoir répondre dans les semaines et mois à venir. Lubna Anaki, Détroit, RFI.
Kamala Harris, qui a donc finalement concédé sa défaite, elle a attendu plusieurs heures avant de prendre la parole. Elle s'est engagée en tout cas à aider Donald Trump pour le transfert de pouvoir. Nous devons accepter les résultats de cette élection, a-t-elle lancé, appelant ses partisans à continuer le combat. On attendait cette prise de parole avec une espèce de mea culpa de sa part, parce que sa défaite s'explique surtout par la mauvaise campagne du Parti démocrate, expliquait ce matin sur RFI Pierre Gervais, historien, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et chercheur au Centre de recherche sur l'Amérique du Nord. Écoutez-le.
La campagne de Kamala Harris, et je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, a été un vrai désastre, au sens où c'était une campagne exclusivement négative et tournée vers les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui, traditionnellement, votent plutôt massivement républicains. Donc le calcul était de rallier ces républicains modérés. Mmh. Et dans le processus, Kamala Harris a entièrement abandonné sa base électorale.
Donc elle a tout faux, absolument pas
aux couches ouvrières. Enfin, si vous allez voir son site, c'est assez étonnant. Puisque
oui, c'est ce que vous pointez
explicitement pour la classe
pour
moyenne.
Pour les issues, c'est-à-dire les questions voilà. importantes, c'est classe les dossiers.
Moyenne. Le dossier est titré classe moyenne. Donc il y a ça, il y a aussi la guerre à Gaza, puisque effectivement son soutien sans faille au massacre à Gaza commis par l'armée israélienne a évidemment démobilisé une partie de la base militante de la gauche du Parti démocrate.
L'historien Pierre Gervais qui était interrogé donc sur RFI par Arnaud Pontus. De son côté, Donald Trump, qui prêtera le serment le 20 janvier, normalement, a lancé un appel à l'unité. Il a réitéré la nécessité d'unifier le pays lors d'un échange téléphonique avec Kamala Harris. Et il a reçu les félicitations, bien entendu, de Barack Obama et du président Joe Biden. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui été l'un des tout premiers dirigeants à saluer la victoire de son ami Donald Trump, le félicitant pour, je cite, « le plus grand retour de l'histoire ». Après plus d'un an de guerre à Gaza, alors que le conflit s'est étendu dans la région et que plane toujours la menace d'une confrontation avec l'Iran, quelles peuvent être les conséquences justement de cette élection américaine au Proche-Orient, Nicolas Falaise?
L'administration démocrate qui vient d'être battue s'était enfermée dans une impasse au Proche-Orient. Avec un soutien continu à Israël dans sa guerre à Gaza, sous la forme de milliards de dollars d'armes et de munitions, avec des critiques, parfois sévères, adressées à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement, mais sans pression suffisante pour imposer un cessez-le-feu. Ce matin, le Premier ministre israélien s'est précipité sur les réseaux sociaux pour féliciter Donald Trump, dans un message dithyrambique qui salue un puissant réengagement dans l'alliance entre les deux pays. Avec le retour du républicain à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou espère une politique américaine aussi favorable que celle du premier mandat Trump. À l'époque, les États-Unis ont déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, bafouant le droit international comme les revendications palestiniennes, en épousant totalement la vision de la droite et de l'extrême droite au pouvoir en Israël.
Merci Nicolas Falaise. Et Donald Trump a lui aussi rapidement passé un coup de fil à Benjamin Netanyahou pour évoquer notamment la menace iranienne, mais rien qui puisse encourager une baisse d'intensité dans le conflit avec le Hamas à Gaza et le Hezbollah au sud Liban. Le sud de la capitale libanaise d'ailleurs a subi au moins 2 frappes tôt ce jeudi, environ une heure après que l'armée israélienne a appelé les habitants de 4 quartiers considérés comme des bastions du Hezbollah à évacuer, selon l'agence France Presse. À la rubrique judiciaire, maintenant, le footballeur français Benjamin Mendy a remporté son procès contre le club de Manchester City, acquitté l'an dernier d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Le défenseur réclamait près de 11,5 millions de livres à Manchester City pour salaires impayés. Le tribunal a rendu son jugement et Benjamin Mendy devrait donc toucher une grande partie du montant qu'il réclamait, Victor Missistrano.
C'est un nouveau combat judiciaire que vient de remporter Benjamin Mendy. L'an dernier, le joueur a été acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle qui pesaient sur lui. À partir de sa mise en accusation à l'été 2021 et jusqu'à la fin de son contrat 2 ans plus tard, Manchester City avait arrêté de lui payer, y compris après ses 5 mois d'emprisonnement, son salaire, soit 500 000 euros mensuels. Quand il n'était pas en détention provisoire, Benjamin Mendy était prêt et désireux de travailler, mais a été empêché de le faire, expose aujourd'hui la juge. Réaction du champion du monde qui, à 30 ans, évolue désormais à Lorient en 2e division française. Après 3 ans d'attente, j'espère que le club agira maintenant de manière honorable en versant les montants dus afin que je puisse enfin tourner la page de cette période douloureuse de ma vie. Benjamin Mendy et Manchester City doivent à présent se mettre d'accord
d'accord sur une somme. Sinon, le montant à verser aux joueurs sera déterminé lors d'une nouvelle audience.
Récit signé Victor Missistrano. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Dans quelques instants, vous retrouvez Couleur Tropicale. L'information, elle, revient dans 50 minutes sur RFI. Et pour l'instant, il est 1h10 ici à Paris.